Je monte quand même ici, ça permet d'être à mi-chemin entre les personnes qui sont à la galerie et les personnes qui sont en bas dans la salle. Donc nous reprenons en quelque sorte un nouveau cycle autour de la personne de Jésus. Jésus l'unique. Il y a un mois, nous avions fait à trois voix un premier institut biblique qui disait Jésus l'unique de manière un peu générale, la façon dont il se présente, la façon dont cela est perçu également, et en confrontation avec l'islam, c'était une introduction en quelque sorte au sujet. Et pendant les prochains mois, nous allons continuer à réfléchir à la présentation de Jésus, à sa personne, à son œuvre, pour nous aider à mieux l'approfondir, pour nous aider aussi certainement dans notre témoignage, mais pas uniquement pour le témoignage. Et donc aujourd'hui, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est la façon dont la venue de Jésus, la venue du Messie a été annoncée, a été préparée, et essayer de voir les différents éclairages qui conduisent jusqu'à la venue de Jésus, et ceci à partir de l'Ancien Testament. Et je lis juste un texte dans Matthieu chapitre 11, les versets 2 et 3, une question de Jean-Baptiste qui a précédé la venue de Jésus. Jean-Baptiste était en prison et dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait le Christ. Il envoya deux de ses disciples lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Voilà une grande question. Es-tu celui qui doit venir ? Lorsque Jésus paraît, le peuple au sein duquel Jésus vit et exerce son ministère est habité par une attente. Alors il ne s'agit pas simplement, comme beaucoup d'autres peuples ont, l'attente de jours meilleurs, comme on le voit dans certaines élections ou autres. Il s'agit vraiment d'une attente bien précise, parce que avait été annoncé quelqu'un qui viendrait et qui apporterait le salut. On attendait que se réalise ce qui avait été annoncé par les prophètes. C'est une expression que l'on trouve dans Luc 1, verset 70. On attendait celui qui devait venir, comme le dit ici Jean-Baptiste. Et ce qui fonde cette attente, c'est tout un ensemble de promesses et d'annonces qui ont été faites au fil des âges, pendant toute la révélation de Dieu, au travers de toute la période qui a précédé la venue de Jésus. On attendait une intervention de Dieu. On attendait un sauveur. Ce sauveur, on lui donnait un titre, c'est le Messie. Le mot Messie, ça signifie celui qui a reçu l'onction de la part de Dieu, qui est choisi par Dieu, qui est équipé par l'Esprit de Dieu pour remplir sa fonction. Et toute la loi et les prophètes annonçaient celui qui devait venir. Et il y a là une caractéristique très particulière de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est comme une sorte de flèche qui va au-delà de lui-même, qui pointe vers au-delà de lui-même. L'Ancien Testament n'est pas simplement une sagesse qui dit des vérités générales, un peu toujours valables. C'est vrai d'une certaine façon dans ce qu'il nous dit sur Dieu, mais il y a aussi cette dimension d'annonce qui est très particulière. Et c'est ici que la foi chrétienne, la foi en Jésus-Christ, trouve l'un de ses enracinements profonds. En même temps, c'est ce qui fait la différence entre le judaïsme et la foi chrétienne aujourd'hui. Ce qui nous rassemble est en même temps ce qui nous divise. Nous avons en commun le fait que, sur la base de l'Ancien Testament, nous recevons l'annonce de celui qui doit venir. Mais la différence, c'est que nous, chrétiens, nous croyons que cela s'est accompli en Jésus-Christ, alors que des personnes de judaïsme, qui ne sont pas chrétiennes, ne le reconnaissent pas. Ce qui a rendu les choses difficiles, c'est essentiellement la forme de l'accomplissement qui s'est révélée en Jésus-Christ. Elle ne répondait pas exactement aux modèles, aux idées que les gens se faisaient. Et c'est pourquoi il y a eu un refus. En ce qui concerne la foi chrétienne, lorsque Jésus accomplit les promesses, il établit vraiment une nouvelle alliance sur des bases renouvelées, ce qui veut dire qu'à la fois il permet vraiment que ce qui a été dit se réalise, mais en même temps, il pousse les choses plus loin. Et c'est pourquoi nous lisons l'Ancien Testament comme préparatoire à la venue de Jésus. Nous le lisons comme l'Ancien Testament qui est suivi du Nouveau Testament, une préparation qui débouche sur quelque chose de neuf. Et il y a un sens chrétien à l'Ancien Testament qui est éclairé par Jésus-Christ. Alors, qu'apporte ce fait de discerner que Jésus est celui qui devait venir et de faire ce parcours par l'Ancien Testament? Je dirais d'abord que ça va nous aider à éclairer plusieurs facettes de la personne de Jésus-Christ et de l'œuvre de Jésus-Christ. Le sens de l'œuvre de Jésus-Christ, de sa personne, ne vient pas seulement de ce que Jésus a vécu, de ce qu'il a fait, cela vient aussi de la façon dont il a accompli ce qui était annoncé de lui. Et donc, nous avons aussi à bien recevoir, en considérant l'Ancien Testament et ce qui est annoncé de celui qui devait venir, cela donne une force beaucoup plus grande à notre connaissance de qui est Jésus. Et puis en même temps, le fait de faire ce parcours, ça manifeste la réalité du plan de Dieu. Et je crois que ça, c'est très très important. La venue du Messie, ce point central et décisif dans l'histoire de l'humanité, c'est un acte qui a été préparé. Dieu a mis en œuvre une préparation longtemps à l'avance. Il a promis, il a annoncé, il a donné des repères bien à l'avance. Il a permis que certains événements de l'histoire du peuple d'Israël soient comme des annonces, des préfigurations de ce qu'il allait faire plus tard. Et le but, c'est qu'au moment voulu, lorsque vient le temps de l'accomplissement, tout cela puisse prendre sens et que l'on puisse reconnaître vraiment l'action de Dieu dans ce qui arrive là. Mais cela montre aussi vraiment que la venue du Sauveur est quelque chose qui est préparé. C'est un plan qui s'accomplit. Jésus n'est pas juste venu sur la terre comme un météorite qui tombe là, comme ça, sur la planète, et puis on ne sait pas d'où ça vient et où ça va. Ça a été préparé, c'est un plan qui est mis en œuvre. Cela montre la sagesse, l'intelligence, la maîtrise du Seigneur. Et c'est d'ailleurs ce que Jésus a voulu faire comprendre à ses disciples. Vous vous souvenez peut-être que juste après la mort de Jésus et au matin de sa résurrection, il y avait deux disciples qui étaient tout découragés. Et ils partaient en disant « Tout est fini, Jésus est mort, notre espérance est perdue. » Jésus les rejoint, Jésus ressuscité les rejoint. Et que fait-il? Il leur dit, Luc 24, versets 25 à 27, « Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas, autrement dit, c'est un plan qui s'accomplit, ne fallait-il pas que le Christ, que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et ensuite, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Voilà, je crois, une étude biblique à laquelle on aurait tous voulu participer. Que Jésus nous montre dans toute l'Écriture, depuis Moïse jusqu'à la fin, tout ce qui le concernait. Alors, je ne sais pas si on n'arrivera pas à faire aussi bien, ça c'est sûr. Mais on va essayer de faire un petit peu ce parcours ensemble et de voir comment Jésus est annoncé. Une première question, c'est comment est-ce que l'Ancien Testament oriente vers Christ? Comment donc l'Ancien Testament oriente-t-il vers le Christ? Je crois qu'on peut juste distinguer trois façons dont l'Ancien Testament, globalement parlant, oriente vers le Christ. Une première manière dont l'Ancien Testament oriente vers le Christ, c'est, alors paradoxalement, par ses insuffisances. Il y a certaines insuffisances qui sont soulignées, quelques insuffisances de la première alliance qui sont soulignées déjà dans l'Ancien Testament, et ces insuffisances orientent vers une nouveauté qui doit permettre de les dépasser et vers la venue de celui qui peut apporter cette nouveauté. À quels endroits sont signalées ces insuffisances? J'en signale deux simplement, principalement. D'abord, en ce qui concerne le salut et le pardon. Dieu avait donné à Israël tout un système sacrificiel, avec des sacrifices pour recevoir le pardon des péchés. Et ce système montrait de manière très claire qu'il fallait que le mal soit puni, Il fallait que, d'une certaine façon, la justice de Dieu soit satisfaite et que le pardon ne peut pas être simplement une espèce de coup d'éponge qui est passé à la va-vite comme cela. Quand on voulait demander pardon, il fallait offrir quelque chose et cela montrait qu'il devait y avoir quelqu'un qui paye le prix pour que le croyant puisse être pardonné. Donc c'est ce qui était donné comme système pour le pardon, les sacrifices. Mais en même temps, on trouve dans l'Ancien Testament une critique de cela. Et à un moment donné, où on se rend compte que ces sacrifices que Dieu a pourtant demandé de faire, ils sont bien insuffisants. Alors il y a deux endroits auxquels ça apparaît. D'abord, il y a des moments où les gens offraient juste des sacrifices comme cela, sans attitude de cœur pour les accompagner. Et les prophètes diront, mais vos sacrifices, ça sert à rien, j'en veux pas. Ce qui compte, c'est le cœur. Hein, et c'est ce que dit Osée, par exemple, où vraiment, il dit, mais arrêtez avec ces sacrifices, faites plutôt couler la justice, ayez plus une attitude qui est juste devant Dieu. Et on met au second plan l'importance des sacrifices par rapport à l'attitude intérieure qui est la plus importante. Et cela relativise déjà cela. Et puis aussi, c'est quelque chose dont on se rend compte à un moment donné lorsqu'on prend vraiment conscience de la nature du péché. Et là, on a un autre exemple, c'est David au psaume 51. Après sa faute, il vient devant Dieu, il est tellement saisi par l'importance de sa faute, de son péché, qu'il dit, mais Seigneur, si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Le sacrifice qui t'est agréable, c'est un cœur brisé. Ô Dieu, cela, un cœur brisé, humilié, tu ne dédaignes pas. Vous voyez que quand on est confronté, comme David là, à la gravité de son péché, on a l'impression que le sacrifice d'un animal, c'est dérisoire. Il faut plus, il faut autre chose. Et l'intériorité, l'attitude de cœur, a plus de valeur que l'extérieur. Et pourtant, c'est Dieu qui a donné, qui a institué ces sacrifices. N'est-ce pas le signe que peut-être ces sacrifices pointent vers autre chose. Là, il y a une sorte d'insuffisance qui pousse vers la recherche d'autre chose, à l'intérieur même de l'Ancien Testament. Une deuxième insuffisance que l'on découvre, ou une limite que l'on découvre dans la première alliance, concerne le peuple de Dieu. On appartenait à cette première alliance par la naissance naturelle. Si on était né d'Hébreu, fils d'Hébreu, on entrait dans l'alliance. Et la circoncision qui était donnée à tous les enfants mâles l'attestait. Mais très vite, on s'est rendu compte que cette appartenance extérieure ne suffisait pas. C'est pas cela qui fait vraiment de quelqu'un une personne qui est agréable au Seigneur, qui appartient vraiment au Seigneur. Ce qu'il faut, c'est un travail intérieur, une circoncision du cœur. Et très vite, l'histoire d'Israël, avec toutes sortes de trahisons du peuple de Dieu, a fait aspirer à autre chose que cette première alliance un peu extérieure où le peuple de Dieu est constitué aussi de simplement ceux qui sont nés à l'intérieur de ce peuple. Et on aspire à un moment donné où le peuple de Dieu, il y a une sorte de nouvelle alliance où tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu connaissent vraiment le Seigneur personnellement et où la loi de Dieu n'est plus simplement écrite sur des tables de pierre comme l'étaient les 10 commandements, mais où elle est écrite vraiment dans le cœur. Et là, il y a des promesses aussi d'une venue, d'une action de Dieu pour renouveler son peuple. Voilà des insuffisances, si vous voulez, là, insuffisances des limites de la première alliance qui font pointer vers plus loin. Une deuxième façon dont l'Ancien Testament globalement annonce Jésus-Christ, c'est par une série de préfigurations. Il y a un certain nombre d'événements, un certain nombre d'institutions, un certain nombre de personnages qui préfigure celui qui doit venir, qui préfigure en quelque sorte Jésus-Christ. On appelle cela la fonction typique ou typologique de l'Ancien Testament. Quand on appelle un type ou une typologie, ça veut dire qu'il y a un personnage qui existe et à partir de ce qu'il est, de ce qu'il représente, on annonce quelque chose d'autre par une sorte de correspondance. C'est ça ce qu'on appelle un type de Christ ou la typologie qui mène à Jésus-Christ. Les prophètes eux-mêmes, de manière générale, ont beaucoup utilisé la typologie dans leur prédication, dans leur prédiction. Par exemple, ils se sont servis de l'événement de l'Exode. Dieu avait délivré son peuple par Moïse, par l'Exode, et les prophètes, souvent, ils annoncent un nouvel Exode. Ça, c'est la typologie. On se sert de cet événement pour dire Dieu va faire un nouvel exode. Alors, ils appliquent cela, par exemple, au fait de dire on envisage l'exil, Dieu va faire revenir les gens de l'exil, c'est un nouvel exode. Ou alors, Dieu va faire revenir son peuple, ceux qui se sont éloignés de lui, va les faire revenir à lui-même, et c'est aussi un nouvel exode spirituel, si vous voulez. Donc, vous voyez, les prophètes eux-mêmes ont fonctionné de cette façon-là. Et l'annonce de Jésus se fera aussi à l'aide d'un certain nombre de ces préfigurations. Quelques événements, pour le dire, il y a certains événements, par exemple, qui, parfois même dans le détail, se sont déroulés d'une manière choisie par Dieu pour qu'il soit comme une sorte de jalon qui sert à l'avance à illustrer ce que Jésus allait faire. Je vous donne un exemple. À un moment donné, le peuple d'Israël était au désert. Ils ont désobéi à Dieu et Dieu a envoyé pour les punir parce qu'ils se révoltaient des serpents qui les ont venimeux, qui les ont mordus. Et donc, ils étaient mordus par le serpent et les gens commençaient déjà à mourir. Quelle est la solution qui a été choisie, que Dieu a donnée à Moïse? Il lui a dit, tu vas dresser un poteau et sur ce poteau, tu vas couler un serpent en bronze et tous ceux qui regarderont ce serpent en bronze seront guéris. Mais cela, typiquement, ça avait du sens en soi. Ça voulait dire, les gens qui étaient mordus par le serpent, il fallait qu'ils aient la foi en la parole de Dieu, la foi dans le moyen que Dieu avait choisi pour être guéri. Je disais, moi je m'en fiche de ce serpent, c'est pas ça qui va me guérir. Ben, ils restaient dans leur péché. Mais s'ils regardaient avec foi, ils étaient guéris. Mais là, on aurait pu faire de beaucoup d'autres manières que cela. Pourquoi élever un serpent sur un morceau de bois comme cela? C'était une sorte de préfiguration de celui qui allait nous guérir du péché de manière la plus large possible, Jésus-Christ en croix. Et avec la même idée que celui qui regarde Jésus par la foi peut être libéré, peut être guéri de la morsure mortelle du péché, encore bien plus mortelle que toutes les morsures de serpent. Là, vous voyez qu'il y a un événement dans la vie du peuple de Dieu que Dieu a inscrit de telle sorte qu'au moment voulu, ça puisse servir de référence. Et c'est ce que l'on trouve, Jésus en parle dans Jean chapitre 3, il dit « De même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Là, c'est un exemple d'un événement tout simple qui sert de préfiguration dans l'Ancien Testament. Mais il y a aussi toutes sortes d'autres réalités qui servent à préfigurer Jésus. Et le Nouveau Testament le signale à bien des reprises. Paul dit vraiment que toutes ces choses qui sont passées dans le Nouveau Testament sont arrivées pour nous servir d'exemple. Le mot qu'il emploie, c'est le mot qui a donné la typologie, un type, hein, donc un exemple qui annonce déjà des choses à l'avance. Par exemple, il dit, ceux qui ont été dans le désert, ils ont bu tous au même rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, cela? Ils ont bu au rocher spirituel qu'ils accompagnaient, ce rocher était Christ. Quand on parle d'un rocher spirituel, ça ne veut pas dire qu'ils ont bu à un rocher qui n'avait pas de consistance. Quand ils ont bu, quand Moïse a frappé le rocher, c'était un rocher matériel, bien évident. Mais ce rocher matériel avait une signification spirituelle. Et c'est quelque chose qui annonçait déjà ce que le Christ voulait être pour nous. Et c'est pourquoi Paul dit ils ont bu au même rocher spirituel qu'ils accompagnaient, ce rocher était Christ. Hein. C'était une préfiguration de ce que le Christ allait faire. Et souvent il est dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Hein. C'est-à-dire que la réalité est donnée par le Christ, mais déjà il y a une ombre qui est projetée et qui est donnée dans l'Ancien Testament. Et Jésus lui-même dit qu'il vient aussi accomplir des choses qui étaient déjà annoncées à l'avance. Par exemple, quand il dit « Je suis le vrai pain venu du ciel. Je suis la vraie manne. » Ce que représentait la manne, moi, je le suis de manière encore plus grande. Quand il dit « Je suis la vraie vigne, c'était le peuple de Dieu. Et je suis, moi, celui qui vraiment annonce le peuple de Dieu. » Vous voyez, toutes ces idées-là montrent que l'Ancien Testament sert de préfiguration à ce que Jésus va manifester. Et puis, troisième manière dont l'Ancien Testament annonce le Christ, c'est bien sûr des prédictions. Des prédictions, cette fois-ci, des endroits où vraiment il y a des paroles très claires, où on annonce à l'avance ce qui va venir, ce qui va être. Et on sait que c'est une des façons dont Dieu s'atteste face aux idoles. Et dans Ésaïe 48, le Seigneur dit, mais vos idoles muettes là, faites-les un petit peu parler, faites-leur faire quelques prédictions, on va voir ce que ça va donner. Moi déjà à l'avance je vous dis des choses et vous pourrez voir que les choses s'accomplissent. C'est comme ça que le Seigneur se manifeste lui-même comme le Dieu vivant et comme le Dieu qui a la maîtrise des événements. Et concernant la venue de Jésus, le Seigneur a annoncé des choses bien à l'avance de manière tout à fait spéciale pour qu'on sache que c'est lui qui agisse, que c'est lui qui met le plan en route. Alors certaines prédictions sont indirectes. Elles se servent justement un peu d'une sorte de typologie, hein, d'un type. Par exemple, pour annoncer les souffrances de Jésus, on se sert de l'exemple du juste souffrant. À plusieurs reprises dans les psaumes, il est question d'un juste qui souffre et on décrit la souffrance de ce juste. Et le psaume 22, par exemple, décrit la souffrance d'un juste. Et c'est d'abord le psalmiste qui exprime sa propre souffrance. Mais ce qui se passe, c'est que dans cette description, il y a des détails qui s'avèrent annoncer bien à l'avance les souffrances de celui qui serait le juste par excellence. Ce juste souffrant, il décrit tous ceux qui sont là en train de se moquer de lui, etc., comme on s'est moqué de Christ. Dans le psaume 22, il est dit à un moment donné, même ils prennent mes vêtements, ils le partagent. Et cela, c'est évidemment ce qui s'est passé, on le sait, à la croix, lors de la crucifixion du Christ. Donc là, il y a un langage, si vous voulez, indirect, mais c'est quand même une prédiction par le biais de la figure d'un juste souffrant qui, au travers duquel le Seigneur se sert pour annoncer ce que serait la souffrance de celui qui est le juste par excellence, Jésus-Christ. Il arrive aussi qu'un certain nombre de prédictions dans l'Ancien Testament, de prophéties, soient avec un double accomplissement. Par exemple, des prophéties qui concernent, ou un premier accomplissement en préfigure un second. Hein. Quand on annonce le retour de l'exil, par exemple, ça annonce plus loin, en deuxième volet, le retour à Dieu qu'apportera le salut au travers de celui qui viendrait. Et donc un certain nombre de prédictions concernant Jésus fonctionne aussi comme cela, par ricochet, d'une seconde façon. Mais il y a aussi des prédictions tout à fait directes qui concernent celui qui doit venir, où le prophète reçoit une révélation de quelque chose, lui-même ne comprend peut-être le sens, ne voit pas toute la portée, mais il dit ce qu'il reçoit, et cela va s'éclairer soudain lorsque cela s'accomplit. Le cas le plus net est l'annonce de la mort de Jésus, du serviteur souffrant, en Ésaïe 53. Le prophète dit quelque chose, il ne comprend pas vraiment tout ce que ça implique, il se représente quelque chose, mais il ne voit pas. Enfin, et là, il y a quelque chose qui est une annonce directe de ce qui va se passer à la croix. Mais d'autres prédictions très précises se réalisent en Jésus. Sa naissance d'une vierge est annoncée dans Ésaïe au chapitre 7. Le fait qu'il naîtrait à Bethléem est annoncé par Michée au chapitre 5. Le fait que son ministère va commencer en Galilée, la région la moins valorisée d'Israël, c'est annoncé dans Ésaïe chapitre 9. Certains traits de son caractère, comme on l'a lu tout à l'heure, il n'éteindra pas le mignon qui fume, la compassion, tout ça, est annoncé en Ésaïe 42. Le fait qu'il serait trahi pour 30 pièces d'argent est annoncé en Zacharie 11. Le fait qu'il mourra frappé comme un berger et que toutes ses brebis seraient dispersées à un moment donné, Zacharie 13. La résurrection est annoncée par le psaume 16, par Ésaïe 53. Vous voyez, il y a bien des prédictions concernant la vie de Jésus qui sont annoncées très fermement, très clairement, et qui sont des prédictions directes. Un certain nombre de ces prédictions ont été accomplies volontairement par Jésus. Jésus, sachant que c'était annoncé, agit de telle sorte qu'on comprenne que c'est lui qui les accomplit. Par exemple, quand il entre dans Jérusalem monté sur un âne, c'est lui qui a choisi de le faire parce qu'il savait que c'était annoncé par le prophète. Donc là, c'est Jésus qui le choisit. Mais un certain nombre, beaucoup de ces prédictions ne dépendaient pas de sa volonté. C'est pas lui qui a choisi de naître à Bethléem plutôt qu'à Jérusalem, par exemple, hein, ou d'habiter en Galilée. Alors une fois qu'on a dit ces caractères généraux, je voudrais qu'on essaie de suivre quelques lignes que prend quelques lignes de, donc parcourt cette annonce de la venue de Jésus au fil de l'Ancien Testament. Et d'abord, quelques mots sur les toutes premières annonces de la venue du Messie. Si on regarde dans le Pentateuque, donc dans les cinq premiers livres de la Bible, on est frappé de voir que déjà là, il y a une annonce, des annonces de celui qui doit venir. Une première annonce se trouve au tout début de la Bible, au tout début de la Genèse, au chapitre 3. Vous savez, donc après la création, chapitre 1 et 2, le chapitre 3 nous décrit la façon dont l'homme et la femme, Adam et Ève, se sont détournés, ont désobéi à Dieu. Et ce qui est assez remarquable, c'est de voir qu'ils ont été entraînés donc par le serpent, qui est une figure pour parler du diable, hein. Ils ont été entraînés par le serpent, qui les a fait désobéir, qui a amené dans le péché vraiment dans le monde. Et ce qui est assez remarquable, c'est de voir que dès ce moment-là, dès le tout début, Dieu a une parole qui est là pour donner espérance à l'humanité qui pourtant s'est détournée de lui. Genèse 3, verset 15. Voilà ce qu'il est dit. Donc le Seigneur s'adresse au serpent et il dit « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Pardon. » Comment comprendre ce texte ? Ce texte parle de la lignée humaine qui va venir, hein, et de la postérité de la femme, hein, et d'un combat finalement entre cette postérité de la femme et le serpent qui représente le diable. Alors on pourrait penser à lire ce texte, on pourrait penser que ça veut dire que l'humanité, la postérité de la femme, l'humanité va résister au diable et va finir par triompher de lui. Mais quand on parle de la postérité, de ta postérité, ce n'est pas forcément tous tes descendants. Ça peut être aussi un descendant, un représentant de cette humanité, par qui cette victoire intervient. Et c'est le sens le plus probable de dire que, déjà dans le texte de Genèse, on vise un descendant de l'humanité, un représentant de l'humanité. Hein, l'adversaire, le serpent, ne peut avoir la tête écrasée qu'une seule fois dans une confrontation décisive. En même temps, cette victoire aura un prix, parce que le talon qui meurtrit décisivement le serpent est lui-même meurtri. Et dans le texte original, le même verbe est employé pour les deux. Hein. C'est la postérité, le représentant de l'humanité te blessera ou te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. Hein. Le même verbe est employé pour les deux fois, et c'est-à-dire la réciprocité. Il y aura un combat où il y aura une vraie réciprocité. Des deux côtés, il y aura blessure. Mais cette réciprocité ne veut pas dire symétrie, parce qu'il y aura au bout du compte un vainqueur et un vaincu. Meurtri à la tête, le serpent est vaincu. Meurtri au talon, le représentant de l'humanité est vainqueur. Mais ce texte annonce qu'il y aura un prix à cette victoire. Alors c'est vrai que voilà une parole qui... Alors nous, on a peut-être l'habitude de la lire au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Mais il faut juste à un moment donné oublier ce qu'on sait de Jésus. Et se dire, voilà une parole qui a été donnée, qui pendant des siècles est restée mystérieuse et obscure. Qu'est-ce qui va se passer ? Comment est-ce que va être écrasée la tête du serpent ? D'une certaine manière, si on regarde la postérité d'Ève pendant toute la suite de l'histoire, elle se révèle beaucoup plus sous l'emprise du diable que comme une postérité qui va écraser le diable. Ils sont plutôt sous l'emprise du diable. Ce n'est pas l'humanité en tant que telle qui peut accomplir cette annonce. Mais voilà que Jésus paraît. Et Jésus paraît, nous dit l'Épître aux Galates, né d'une femme. Et le sens de cette expression, entre autres, c'est de dire qu'il a... C'est ta postérité, est-il dit à Ève, qui va venir. Né d'une femme, il apparaît. Et il vient, nous dit la première épître de Jean, pour détruire les œuvres du diable. Mais comment est-ce que Jésus détruit les œuvres du diable ? C'est par sa mort qu'il va réduire à l'impuissance celui qui avait le pouvoir de la mort, nous dit l'épître aux Hébreux. Et ce qui est assez extraordinaire quand on voit la façon dont ça s'est passé, lors de sa passion, Jésus subit vraiment tout le déchaînement du mal. On peut dire que le diable lance sur lui son venin le plus haineux. Et c'est vraiment ce qu'annonçait cette Genèse 3. Il va te mordre au talon, il va te mettre tout son venin. Et Jésus, véritablement, subit cette haine. Jésus subit la mort. Et c'est en subissant la mort, en subissant cette haine même du diable, ce venin mortel, qu'il va renverser complètement tous les desseins du diable, qui sera pris à son propre venin d'une certaine façon. Puisque la mort de Jésus deviendra le moyen par lequel la justice de Dieu s'accomplit pour notre salut et notre pardon, et la mort ne sera pas définitive, Jésus aura la victoire sur la mort par sa résurrection, et c'est ainsi qu'il en triomphera. Et vous voyez, c'est quand même assez extraordinaire quand on pense à ça. Nous, on lit ce texte tellement naturellement en pensant à la lumière de Jésus-Christ, mais pendant tous ces siècles, ce texte a été tellement mystérieux. Et quand il s'accomplit, c'est vraiment une lumière absolument magnifique qui en ressort. Donc voilà une annonce. Une autre particularité quand même de ce texte de Genèse 3, c'est son universalité. Cela concerne toute la postérité de la femme. C'est l'humanité dans son ensemble qui est visée, ce n'est pas un peuple particulier. Un deuxième texte, deuxième annonce dans les premiers livres de la Bible, les cinq premiers livres, le Pentateuque, c'est à la fin, dans le livre du Deutéronome, chapitre 18, verset 15. Moïse parle au peuple et il dit, Deutéronome 18, verset 15, « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » Le Seigneur te suscitera un prophète comme moi, dit Moïse. Qui est ce prophète comme Moïse? Certains ont vu dans cette annonce un sens collectif, que c'est presque toute la lignée des prophètes. D'autres voient plutôt une figure particulière qui a l'envergure comparable à celle de Moïse. Je crois que c'est plutôt dans cette lignée-là qu'il faut comprendre le texte. Il faut bien comprendre ce qu'était la stature de Moïse. Moïse était à la fois un porte-parole de Dieu, un prophète dans ce sens où il apportait la parole de Dieu, mais il était aussi le médiateur de l'Alliance. C'est vraiment lui qui a fait le lien entre Dieu et son peuple lorsque Dieu a établi son alliance. Il est aussi celui qui a donné sa loi au peuple d'Israël. Et là, il y a quelque chose de tout particulier dans le fait de donner la loi qui est la base vraiment de toute la relation entre Dieu et son peuple. Et parler donc d'un prophète comme Moïse, c'est envisager une figure aussi imposante, aussi complète que celle-là. Alors les prophètes qui viendront après Moïse, ils annonceront la parole de Dieu à Israël. Mais par exemple, leur message, souvent, s'appuiera sur la loi donnée par Moïse. Lorsque Isaïe parle au peuple d'Israël, il dit « à la loi et au témoignage ». Il faut revenir à ce que le Seigneur a donné par Moïse. Donc on voit que les prophètes ici ne donnent pas vraiment une nouvelle loi, mais ils se basent sur la loi donnée par Moïse. Alors il me semble que la pointe de ce texte, ce n'est pas d'annoncer la ligne des prophètes, mais de dire vers quoi aboutira toute cette ligne des prophètes qui viendra. Son sommet, ce sera un nouveau Moïse. Alors on peut dire, si on regarde d'autres prophètes, Élie par exemple, il ressemble à Moïse sous certains aspects. Il a reçu une révélation de Dieu au Sinaï, comme Moïse, etc. Mais Élie, par exemple, n'a pas donné la loi, une loi nouvelle à son peuple. Ça, il ne l'a pas fait. Il n'est pas un prophète comme Moïse dans ce sens-là. Ésaïe et Jérémie ont annoncé beaucoup de choses, mais ils n'ont pas donné non plus une nouvelle loi, une nouvelle base au peuple de Dieu. Ce prophète comme Moïse est donc particulier. Et dès le début, on dit, on regardera tous les prophètes, mais on sait que ça annonce quelqu'un qui aura un rôle tout aussi important que Moïse et qui aura un rôle tellement fondateur comme l'aura été ce rôle de Moïse. Et donc là, il y a une annonce aussi qui conduit le regard beaucoup plus loin. Quelles sont les formes maintenant que prennent dans la suite de la révélation biblique l'annonce de celui qui devait venir? Il y a trois figures principales que j'aimerais juste développer avec vous rapidement. Première figure, c'est le fils de David, première ligne. Une deuxième ligne, c'est le serviteur souffrant. Une troisième ligne, c'est le fils de l'homme. Je vais essayer de avec le temps qui nous reste, de donner quelques aspects sur ces trois lignes. Première ligne, donc, la figure du Messie à venir, de celui qui va venir, il est décrit comme le fils de David. Cette expression « fils de David » trouve sa source dans une promesse qui a été faite à David et à sa descendance. Vous vous souvenez qu'à un moment donné, David a manifesté le projet de bâtir un temple, une maison à Dieu. Et le Seigneur lui a répondu avec une grande générosité en lui disant « Écoute, ce n'est pas toi qui vas me bâtir une maison, mais c'est plutôt moi qui vais te donner une maison. » Et une maison dans le sens de dire une maison royale. Et tu auras des descendants vraiment sur ton trône à jamais. Et tu ne finiras pas comme la maison de Saül dont a été le témoin qu'elle a terminé piteusement. Et voilà la promesse qui est faite. 2 Samuel 7, versets 11 à 16. « Voilà, l'Éternel t'annonce qu'il te crée une maison, dans le sens d'une maison royale. Quand tes jours seront accomplis, quand tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. » S'il a fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera pas de lui comme j'ai retiré de Saül que j'ai rejeté devant moi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. » Alors, il y a un double accent. Un accent individuel, il est question de ton fils après toi, Salomon. Et c'est vraiment déjà une manière très concrète dont Dieu dit on va assurer la succession. Et puis un axe collectif, il est question de ta maison, de ton règne. Salomon sert de figure à tout ce qui doit venir après. Mais en même temps, vous avez vu que l'accent porte très fortement sur l'idée de ce royaume qui est affermi pour toujours. Trois fois. J'affermirai pour toujours le trône de ton royaume, verset 13 et verset 16. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Et la question qui se pose, c'est comment envisager ce « pour toujours » ? Est-ce que ça veut dire qu'il y aura toujours des successeurs, l'un après l'autre, qui mourront, mais que ça continuera toujours comme ça ? Ou est-ce qu'il faut envisager, à un moment donné, autre chose, c'est-à-dire un règne qui, lui, soit vraiment pour toujours, un règne qui, lui, soit définitif ? Très vite, dès Salomon, on s'est rendu compte que la ligne de David avait aussi ses limites. Salomon n'a pas très bien fini, tout en a eu un règne absolument glorieux. Et on s'est bien rappelé de ses faveurs, de cette promesse faite à David. Dans Ésaïe 55, verset 3, on rappelle vraiment qu'il y a ses faveurs faites à David, parce que les rois, même issus de David, n'ont pas tous été absolument glorieux. Mais petit à petit, des précisions sont données sur ce qui allait advenir de cette lignée. Alors, quelques repères. Premier repère, c'est Amos. Amos qui annonce que cette espérance de la règne qui durera pour toujours pour la maison de David va passer par un moment où la maison de David ne sera plus qu'une cabane vraiment branlante. On parlait « j'affirmerai ta maison ». Et Amos dit, Amos 9, verset 11, il dit « En ce temps-là, quand viendra l'accomplissement, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en rebâtirai les brèches, j'en redresserai les ruines, je la rebâtirai comme elle était autrefois. » Donc on annonce qu'il y aura un moment donné où, en effet, cette maison de David, elle sera très très branlante, elle sera presque en ruine, mais le Seigneur rebâtira quelque chose. Donc j'affirmerai pour toujours, oui, mais au travers d'une rupture où le Seigneur reprendra les choses. Et c'est ce qui fait attendre aussi celui qui pourra reprendre les choses au terme de cette rupture. Le prophète Michée reprend cette même idée sous un autre angle. Il dit « Le Messie, celui qui doit naître, va naître à Bethléem. » Pourquoi Bethléem ? Bethléem, c'était la ville des débuts obscurs de David. David, à Bethléem, c'est là qu'il est né. Avant qu'il soit roi, c'est Bethléem. La ville qui représente la royauté, c'est Jérusalem. Et donc Michée annonce que c'est à Bethléem que va naître celui qui doit venir, et non à Jérusalem. Autrement dit, ce Messie-là, on repartira à partir de tout le commencement. Mais en même temps qu'il dit ça, Michée annonce des qualités de ce Messie, de ce fils de David, des qualités qu'on attribuerait à aucun roi humain. Je vais vous lire Michée 5, versets 1 à 4. Il dit « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite, entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui dominera sur Israël, dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Ça veut déjà dire beaucoup plus. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera, il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre, c'est lui qui ramènera la paix. Et vous voyez qu'ici, il y a quelque chose d'assez contrasté. D'un côté, Michée annonce une période difficile, où Israël est livré, où il y a seul Arès qui demeure, mais après ça, il viendra celui qui dominera sur Israël, hein, par celle, dit-il, qui doit enfanter, elle doit enfanter. Et celui qui vient là, Michée le décrit avec des attributs qui évoquent le Seigneur lui-même. Il gouvernera avec la force du Seigneur, avec la majesté du nom de l'Éternel. Il y a là quelque chose de très très fort qui est dit. Et c'est celui dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Vous voyez, contraste entre le fait qu'il faut reprendre, mais celui qui reprend les choses, ça... Il est paré d'attributs qui vont de choses qu'on ne dit pas normalement d'un roi humain simplement. Et ici, Michée en fait fait écho à un autre prophète qui lui est contemporain. Et ce prophète, c'est Ésaïe. Quand il dit « Viendra le jour où doit enfanter celle qui doit enfanter ». D'où ça lui vient cette idée « celle qui doit enfanter » ? Ça lui vient d'une prophétie que son collègue Ésaïe a fait peu auparavant, dans Ésaïe 7, verset 14, où Ésaïe avait annoncé que la Vierge allait enfanter un fils. Et ce fils, il serait appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et ce fils également, il serait paré de toutes sortes de titres divins. Ésaïe 9, verset 5, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. » On l'appellera admirable conseiller, Dieu fort, Père éternel, Prince de paix. Et vous voyez, on retrouve la même ligne, celle qui doit enfanter, qui enfante, et ce fils de David que Michée annonce donc pour la maison de David, pour la redresser, il est aussi paré de ses titres divins. Un autre texte est intéressant pour faire écho à cette promesse qui a été faite à David, par Nathan dans 2 Samuel 7. Et c'est un psaume qui est très souvent cité dans le Nouveau Testament, le psaume 110. C'est un psaume qui est de David, et c'est un psaume qui se décrit comme un oracle du Seigneur qui a été donné à David. Autrement dit, un endroit où vraiment David a eu une révélation certainement tout à fait particulière. Et que dit cet oracle ? Voilà ce qu'il dit. « Oracle du Seigneur à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. » Il est question ici d'une parole que Dieu donne pour quelqu'un qui est appelé à régner. Donc, il s'est donné à David, donc c'est vraiment pour un descendant de David, dans la perspective d'un descendant de David. Que cela est dit, les questions de régner vraiment. Et qu'est-ce qu'il est dit ? Oracle du Seigneur à mon Seigneur, dit David. Ça concerne quelqu'un d'autre que David appelle son Seigneur et qui est d'une certaine manière appelé à être son descendant. Et quelqu'un qui va régner et qui règne comment ? En disant, le Seigneur lui dit, assieds-toi à ma droite. Là, il y a quelque chose qui va très très loin. Il est question là véritablement de, et on peut mettre ça en relation avec cette idée qu'il avait été annoncé que ton règne n'aura pas de fin. On commence à voir des lignes qui se tracent. Quelle peut être la façon dont ce règne qui n'aura pas de fin pour le descendant de David se présente ? c'est s'il y a en effet un descendant de David qui est appelé à ces hauteurs-là. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je règne, jusqu'à ce que mette tous tes ennemis, que j'en fasse ton marchepied. Et David appelle ce descendant qui est envisagé, il l'appelle son Seigneur. Et puis si on continue ce texte du psaume 110, on est surpris parce que qu'est-ce qu'on découvre ? Une autre perspective au verset 4, il est dit « Ce roi qui doit régner éternellement à la droite de Dieu, il est aussi appelé comme à être prêtre pour toujours. » Verset 4, « Le Seigneur l'a juré, il ne s'en repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. » Oh, c'était extraordinaire. Pendant tout le temps en Israël, on a toujours séparé la royauté et la prêtrise. Et là, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui va régner éternellement et qui est en même temps prêtre pour toujours. Et voilà ce qui est dit du descendant de David, apparemment, de celui qui est appelé à accomplir cette prophétie. Donc voilà, des lignes vraiment se tracent. Et Zacharie, à la fin de la période de l'Ancien Testament, unit aussi la royauté et la prêtrise dans la même ligne. Il parle au retour de l'exil, celui qui est une des figures principales, c'est le grand prêtre Josué. Et c'est Josué qui sert un petit peu de figure du Messie. Et en même temps, ce grand prêtre, il est annoncé comme étant aussi un roi. Zacharie 6, versets 12 et 13. Alors, c'est un petit peu crypté, peut-être. Tu diras à Josué, voici, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Il germera dans son lieu et il bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté. Il s'adressera et domina sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Alors l'un et l'autre, c'est entre le prêtre et le roi, hein, de cette façon, parce que les deux figures qui sont évoquées. Vous voyez ici, il est question de quelqu'un qui s'assied sur le trône et qui en même temps est sacrificateur. On annonce les deux, la jonction des deux, qui étaient toujours séparés jusqu'ici en Israël. Vous avez vu, il est dit, voici un homme dont le nom est Germe. Le nom est Germe, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, Zacharie reprend des prophètes qui l'ont précédé. Et en particulier un texte de Jérémie qui dit, voici, Jérémie 23, verset 5, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il règnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Donc quand on dit quelqu'un dont le nom est Germe, en langage un peu codé, ou de gens qui s'y connaissent, ça veut dire c'est le fils de David. C'est celui qui germera, le descendant de David. Ce fils de David, voici quelqu'un qui s'appelle Germe, je le susciterai, et c'est lui qui sera en même temps sacrificateur sur son trône et avec une parfaite union entre la fonction royale et la fonction de prêtre. Vous voyez un petit peu le chemin qui a été parcouru depuis 2 Samuel 7. On parlait de dire, voilà, tu auras une descendance pour toujours, une maison royale. On découvre que les chemins seront très heurtés, qu'il y aura, oui, à un moment donné, où cette maison de David sera comme presque démolie. Mais en même temps, cela fait comprendre que ce qui donnera sa consistance à la maison de David et qui accomplira sa promesse, c'est vraiment quelqu'un d'unique qui sera sur un trône éternel. Et ce quelqu'un d'unique, il est Dieu avec nous, David l'appelle mon Seigneur, il règne à la droite de Dieu et il unit deux fonctions qui étaient jusqu'ici toujours séparées en Israël, celle de roi et celle de prêtre. Ça c'est ce qu'on discerne, si vous voulez, quand on essaye de suivre ces annonces concernant la promesse faite à David. Donc c'est une première grande ligne avec ces développements. Deuxième figure que l'on trouve dans l'Ancien Testament, je serai un peu plus court cette fois-ci, hein, pour les deux dernières, c'est la figure dont on a parlé tout à l'heure dans le texte, c'est du serviteur de l'Éternel, du serviteur souffrant. Dans la deuxième partie de sa prophétie, Ésaïe introduit un personnage complètement nouveau. Il est présenté par le Seigneur lui-même, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, Ésaïe 42. « Voici mon serviteur, dit le Seigneur, que je soutiendrai, que j'ai choisi, qui a toute mon approbation. Je mettrai mon esprit sur lui, etc. » Et plusieurs poèmes dans la deuxième partie d'Ésaïe font intervenir ce serviteur de l'Éternel. Qui est-il, ce personnage? Comment le définir et que découvrons-nous de lui? J'ai parlé d'un personnage. Certains contestent que ce soit un personnage parce que ce serviteur est aussi appelé Israël. En effet, dans le deuxième poème du serviteur, au chapitre 49, voilà ce qu'il est dit, Ésaïe 49, verset 3, donc le serviteur parle et il dit « Et le Seigneur m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifie. » Certains disent, c'est clair. Le serviteur ici, c'est Israël. Cette figure-là, c'est qu'une représentation d'Israël et de sa mission. Alors c'est ce qu'on pourrait en effet déduire de ce verset 3 du chapitre 49 d'Ésaïe. Mais ce ne serait pas tenir compte de la suite du même poème au chapitre 49. Puisque quand le poème continue, et qu'est-ce qu'il est dit ensuite? On voit ce serviteur comme ayant une fonction à accomplir pour Israël. Et Ésaïe 49, verset 5, « Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersé. Car je suis honoré aux yeux du Seigneur, l'Éternel est ma force. » Alors ici, là, le serviteur, ce n'est pas Israël, puisque c'est quelqu'un qui agit pour ramener Israël. Ça ne peut pas être les deux. Hein? Comment harmoniser les choses? La seule harmonisation possible et satisfaisante, c'est de dire que ce serviteur, c'est quelqu'un de bien précis. Une personne bien précise. On l'appelle Israël. Pourquoi? Parce qu'elle remplit la mission que devait accomplir Israël. C'est pour ça qu'il est appelé Israël, il remplit la mission que Israël devait accomplir. Mais ensuite, il agira en faveur d'Israël. Donc c'est comme ça qu'on peut harmoniser ces données concernant la relation entre le serviteur et Israël. Et c'est très très important, si vous voulez, de souligner ce point-là et de dire que le texte d'Ésaïe 49 lui-même nous oriente vers l'idée que le serviteur, c'est une personne et non pas une sorte de représentation d'ensemble du peuple. Alors comment est décrit ce serviteur? Deux, trois traits. D'abord, je suis très content qu'on ait lu le chapitre 42 tout à l'heure, il est décrit comme un nouveau Moïse. Il est dit, le serviteur va apporter sa loi aux îles. Hein. Il portera sa loi, sa Torah. Hein, c'est le mot qui est employé. Et il apportera pas seulement à Israël sa loi, mais il l'apportera à tous les peuples. Les îles, est-il dit, espéreront en sa loi. Il est établi aussi, deuxièmement, pour être l'alliance du peuple, la lumière des nations. Et là, on dépasse la figure d'un simple prophète, puisqu'il est appelé à être celui qui fait l'alliance avec les peuples. Hein? On parle d'une loi nouvelle, on parle d'une alliance nouvelle élargie à toutes les nations. Et ce serviteur, nous l'avons lu aussi, c'est celui qui apporte la libération. Il fait sortir de prison les habitants des ténèbres, ceux qui habitent dans les ténèbres. Il dit aux prisonniers, sortir, sortez. Et un texte du chapitre 49, le deuxième poème, dit aussi, il va les guider jusqu'à des sources d'eau. Et on retrouve un autre aspect qui rappelle Moïse, qui a été non seulement celui qui donne la loi de Dieu à son peuple, non seulement celui qui établit l'alliance avec Dieu, mais celui qui fait sortir le peuple d'Égypte, qui apporte la libération au peuple d'Égypte. Donc visiblement, ce serviteur de l'Éternel est décrit comme un nouveau Moïse. Et on retrouve là les échos de Deutéronome 18, où le Seigneur disait, je vous donnerai vraiment un prophète comme Moïse, hein, avec toute la dimension de Moïse, mais on voit que c'est quelque chose qui est élargi aux îles également, ça va plus loin, c'est une nouvelle alliance. Mais la caractéristique principale de l'action du serviteur, après qu'on a souligné vraiment qu'il est le nouveau Moïse, dans ce sens le plus plein possible, il est aussi décrit comme un serviteur qui va souffrir, qui va connaître le rejet des hommes, qui va être condamné d'une condamnation injuste. Et le prophète lui-même est saisi d'effroi devant cela. Ésaïe 53, mais qui a cru? Qui reconnaîtra dans ce qui s'est passé la main du Seigneur? Et en même temps, cet effroi est comme une révélation. Ce qu'il souffre, c'est incompréhensible qu'il souffre comme il le fait. Ce qu'il souffre, mais c'est pour nous qu'il le fait. Ce châtiment qu'il endure, c'est le châtiment qui nous donne la paix. Oui, il est frappé, mais il est frappé pour nous. Et Ésaïe va jusqu'à dire que ce serviteur offre sa vie comme un sacrifice pour le péché. Ésaïe 53, verset 10. Sa mort opère ce que représentaient les sacrifices, un sacrifice pour le péché. Mais en même temps, cette mort ne sera pas la fin de tout. Car après sa mort, nous dit Ésaïe 53, le serviteur verra la lumière, il rassasira ses regards. Il aura aussi une postérité qui croira, qui recevra la vie par lui. Il apportera la justice à une multitude et il sera élevé aussi bas qu'il a accepté d'être abaissé, aussi haut il sera élevé. Et là, c'est l'aspect tout particulier de la figure du serviteur souffrant. Il y a quelque chose d'absolument inédit qui est annoncé là. Le problème du péché, le problème de la culpabilité est assumé par quelqu'un, est assumé par cet envoyé de Dieu, ce serviteur dont l'action doit avoir une portée universelle. Alors, si on essaie de tirer toutes les ficelles, est-ce qu'on peut faire un lien entre ce serviteur de l'Éternel et, d'une certaine façon, les prophéties concernant le fils de David? Alors, ce qui est intéressant, c'est que Zacharie fait la jonction dans un texte. Zacharie 3, versets 8 à 9, voilà ce qu'il dit. Il parle à Josué, toujours le grand prêtre. Il dit « Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons, voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. » Alors maintenant, ce langage n'a plus de secret pour vous. « Je ferai venir mon serviteur », c'est vraiment le serviteur de l'Éternel annoncé par Ésaïe, et on l'appelle aussi le germe, dans le sens qu'il est ce germe de la postérité de David. Et le lien est fait. Les lignes se retrouvent. Le serviteur de l'Éternel, c'est aussi le germe, le fils de David promis. Hein ? Le serviteur est en même temps nouveau Moïse, sacrifice pour le péché. C'est aussi ce fils de David plus grand que David, appelé à régner d'un règne sans fin. Et il y a là une synthèse qui est faite. Alors il y a un trait nouveau par rapport au fils de David. On n'avait jamais envisagé que le fils de David puisse avoir à souffrir. C'est jamais dit. Et quand on associe la figure du serviteur, il y a là quelque chose qui est ajouté. Et d'ailleurs, Zacharie l'intégrera puisqu'il parle d'un personnage qui est le berger de son peuple. Donc ça, c'est une manière de dire aussi le fils de David, le roi, le berger qui sera frappé et qui devra souffrir. Troisième figure, le fils de l'homme. Elle intervient dans le livre de Daniel, cette troisième figure. Daniel décrit la chute de tous les grands empires et l'inauguration d'un autre règne. Et comment cet autre règne est inauguré? C'est parce que quelqu'un qui est comme un fils d'homme s'approche de l'ancien des jours, donc du Seigneur, sur les nuées du ciel et reçoit la domination universelle. Daniel 7, 13 à 14. « Je regardais pendant mes visions, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, on le fit approcher de lui, on lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son règne ne sera jamais détruit. » Ce personnage donc est là, il est appelé fils d'homme et fils de l'homme, et en même temps il vient sur les nuées. En général, c'est Dieu qui vient sur les nuées, hein, et ça suggère vraiment une origine céleste pour ce, et non pas terrestre pour ce fils d'homme. Alors d'un côté, vous avez l'expression fils de l'homme qui dans son sens le plus simple veut dire un homme qui est fils d'un homme, quoi, un simple homme. Et en même temps, ce fils d'homme, il vient sur les nuées, avec visiblement un caractère et une origine céleste. Et c'est quelqu'un qui vient des cieux qui est appelé à avoir cette domination éternelle, ce règne qui n'est jamais détruit. Et donc, ici, il y a une nuance supplémentaire qui est ajoutée avec cette idée de quelqu'un qui vient des cieux et avec cette domination absolument éternelle. Quelqu'un comme un fils d'homme, cela rappelle aussi une vision qu'avait eue Ézéchiel de la gloire de Dieu. Il avait vu le trône de Dieu et tout au sommet du trône, il y avait une figure, dit-il, comme la figure d'un fils d'homme. Et certainement qu'il y a une reprise de cela pour dire quelque chose de la gloire de Dieu. Vous voyez ici donc, on est sur une autre notion, ce fils d'homme, avec ce fils de l'homme, apparemment un terme très simple, très, très humble, mais une origine céleste et quelque chose qui renvoie aussi à une révélation de Dieu lui-même autrefois. Voilà ces trois lignes, grandes lignes qui sont données, avec l'ensemble des autres préfigurations. Alors, juste quel bilan faire de toutes ces données ? C'est indiscutable qu'il y a une annonce claire, qu'il y a des repères. Certaines lignes sont très clairement données. La maison de David doit connaître une éclipse, presque disparaître, avant que quelqu'un ne vienne reprendre le flambeau. Celui qui viendra doit établir une nouvelle alliance, donnera une nouvelle loi, l'annoncera à tous les peuples, formera un nouveau peuple de Dieu. Une autre ligne claire, c'est la souffrance, le rejet de celui qui doit venir. Et celui qui doit venir rassemble en sa personne de nombreuses fonctions, roi, prêtre, prophète. Certaines pièces du puzzle sont difficiles à réunir. La principale difficulté, c'est de faire le lien entre des aspects très terrestres, parce qu'on dit qu'il y a une continuité terrestre, c'est la postérité d'Ève, c'est la postérité de David. Donc il y a d'un côté une continuité très terrestre, et d'un autre côté, il y a des traits divins, des traits célestes. Hein. Lorsque la domination repose sur les épaules, lorsqu'on appelle celui qui vient Père éternel, Prince de paix, lorsque le Fils d'homme vient des cieux, etc., il y a une dimension céleste qui est aussi associée, et ça, on a du mal à faire vraiment la synthèse entre les deux. L'aspect terrestre, l'aspect divin. Et cette dualité rejoint un autre aspect de l'Ancien Testament. D'un côté, dans l'Ancien Testament, il est dit « voilà, le Messie va venir », et d'un autre côté, Dieu dit « voici, je viendrai moi-même ». Là aussi, c'est la même chose. Les deux choses sont dites. D'un côté, on a l'impression qu'on parle d'un homme qui va venir, et d'un autre côté, le Seigneur dit « je viendrai moi-même ». Alors, si vous voulez, l'image globale de tout ça me semble être cette idée qu'il y a plusieurs pièces du puzzle qui sont là, qui sont présentes. On arrive à en relier certaines entre elles, et j'ai essayé de faire un peu ces liens. On arrive à les rejoindre entre elles, mais il manque ce qui donne sa cohérence globale. Il y a des pièces du puzzle qui sont là, mais il manque quelque chose qui donnera finalement une image absolument qui ait du sens et qui soit pleinement lisible. Et cette pièce qui viendra et qui peut tout unir, cette pièce, c'est vraiment celui qui doit venir. Et je crois que ce qui est assez remarquable, c'est de voir que justement Jésus, par ce qu'il a été, par sa personne, par ce qu'il a fait, représentera cette pièce qui est exactement au contour de tout ce qui est nécessaire et qui permet de tout ajuster ensemble. Jésus fera cela, mais avant que Jésus ne vienne, on était là en disant oui, on voit des lignes, mais on n'arrive pas à mettre tout ça ensemble. Et c'est bien le signe que d'un côté, les annonces ne devaient pas donner à l'avance toute l'image de ce qu'allait être celui qui veut venir. Les annonces avaient pour fonction de permettre qu'on le reconnaisse et qu'une fois qu'il soit là, on puisse dire oui, c'est bien lui. Oui, on peut donner le sens à ce qu'il est, à ce qu'il fait. Et donc, c'est un peu comme ça que je vous propose de voir les choses. L'image n'est pas finie dans l'Ancien Testament et c'est volontairement que tout n'est pas relié. On attend la pièce qui fera vraiment la jonction entre tout ça. Et c'est justement ça la fonction d'annonce, que de dire que celui qui vient, quand il est là, s'il est vraiment authentiquement celui qui a été annoncé, ça doit permettre d'avoir l'image globale et l'image du puzzle qui est complètement claire. Et c'est, me semble-t-il, dans ce sens-là que nous pouvons recevoir des choses. Au temps de Jésus, on ne l'a pas toujours reconnu, parce que certains valorisaient tel aspect ou tel aspect ou tel aspect du puzzle. Mais Il fallait prendre l'ensemble des choses, et si on prenait l'ensemble des choses, en effet, tout s'éclaire. Et c'est ce que Jésus a montré à ses disciples quand il a parcouru toute l'Écriture pour dire ce qui le concernait. Je suis désolé, j'ai pris beaucoup plus de temps que ce que je voulais, mais je voulais essayer de vous donner ces quelques éléments, cette figure-là. Alors, je ne sais pas si vous avez une question éventuellement. Mais... Voilà, je crois que ce qu'on peut dire, j'espère que vous pourrez garder quand même l'ensemble de ces données, que ça peut aider votre lecture dans l'Ancien Testament, mais surtout, ça nous aide à voir vraiment le Seigneur qui avait préparé son plan, il l'a réalisé d'une manière très juste et d'une manière admirable, et il s'est attesté vraiment comme le maître de l'histoire et le Dieu fidèle à sa parole. Merci beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une bonne semaine.